Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Squarespace comme sponsor du podcast? D'abord parce que je sais qu'ici vous êtes très nombreux à entreprendre, avoir un podcast ou un projet qui nécessite d'être valorisé sur un site web. Et que Squarespace propose des outils vraiment simples d'utilisation pour avoir un site beau, propre et efficace en un minimum de temps. Quelques exemples de fonctionnalités, des templates de sites web personnalisables et adaptatifs pour créer des sites beaux et design en un temps record. L'outil email, le nerf de la guerre pour développer votre activité et communiquer avec vos clients. Ou encore leur outil SEO intégré pour émerger sur Google sans être un produit métier. Alors si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Bonjour à tous, ici Pauline Ignot, je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode et un épisode qui est placé sous le signe de la motivation, de l'entrain, mais aussi de la discipline, mes chers amis, puisque aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir avec moi Coach Joe, que vous connaissez certainement de nom, en ce moment on ne parle que de lui, c'est le coach de la Star Academy, mais en fait bien plus que ça, et vous me connaissez, ce que j'ai apprécié c'est justement d'essayer d'aller déterrer quelques anecdotes, et puis surtout de comprendre qu'est-ce qui a fait le succès, qu'est-ce qui a fait que finalement Joël, alors que rien ne le prédestinait à ça, est devenu le coach des stars. Il a coaché Kanye West, Kim Kardashian, Omar Sy et bien d'autres. Comment a-t-il réussi à aller au bout de ses rêves, si je puis dire, puisqu'il n'avait même pas anticipé qu'il irait aussi loin, alors qu'il venait d'un milieu, au final, très très humble. J'ai beaucoup aimé cette interview parce que je trouve que Joe, premièrement, s'est beaucoup confié, et puis surtout, en fait, qui donne vraiment de l'espoir, qui nous montre finalement que l'ascenseur social fonctionne encore quand on s'en donne les moyens et quand surtout on sait saisir, ou plutôt, comme il le dit, susciter sa chance. La chance, finalement, ça tombe pas du ciel, c'est quelque chose qui se prépare et j'ai trouvé ça particulièrement inspirant. J'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, surtout envoyez un message à Joël. Il est présent sur Instagram, je suis sûre qu'il sera ravi. Il m'a d'ailleurs confié en fin d'interview que chaque message lui faisait sa journée, donc n'hésitez pas à lui en envoyer. Il sera vraiment ravi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Joël Bouraima. Bonjour Joël.
Bonjour Pauline.
Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci d'avoir lancé l'invitation.
Et on a réussi alors que tu as, crois, un agenda, et moi aussi je dois dire, assez chargé. Ouais. Donc ça fait bien plaisir.
Quand on veut, on peut.
Et bah, je pense que c'est un motto que pas ta mal. Vie a l'air de pas mal incarner. Si ça te va justement, Joël, je me disais que le mieux, ça serait peut-être de commencer par le début et remonter à ton enfance. Alors moi, j'ai fait évidemment mes recherches sur toi et j'ai trouvé que c'était passionnant. Et je te remercie d'ailleurs aussi de m'avoir offert ton livre parce que je trouve qu'on y apprend énormément de choses justement qui sont pas forcément visibles au premier abord quand on te connaît de loin. Donc je serais très curieuse que tu me parles de ton enfance, que tu me dises un petit peu plus comment était le petit Joël, dans quelles circonstances familiales tu vois tu es né, si tu l'acceptes, que je pense que ça apportera pas mal d'épaisseur justement à qui tu es.
Bah moi je m'appelle Joël Bouraima, j'ai aujourd'hui 43 ans, donc je suis né, si vous faites les calculs, dans les années 80, à l'année 80
exactement, l'année pile même.
Pile, donc moi je suis issu d'un père sénégalais qui a immigré en France dans fin des années 70 et d'une mère corrézienne,
originale,
ouais, dans la région de Brive, à Alassac exactement. Moi, je suis né donc, comme je l'ai dit, dans les années 80, enfin l'année 1900, je sais pas pourquoi, dans les années 80, ça fait genre.
Essaye de te rajeunir un peu.
Je suis un ancien. Non, même pas. Je suis né en 1980, donc en 1980 dans les Yvelines. Je suis né au Chênaix. Ensuite, on déménage quand je suis très jeune dans la ville de Saint-Cyr, pas loin de Versailles, petite cité HLM. Ma mère travaille à la poste, mon père fait des petits boulots à droite à gauche, donc on roule pas sur l'or, mais moi je veux dire que je m'en aperçois pas jusqu'à mes 15-16 ans, quand je commence à justement à voir ce qu'il y a en dehors du quartier, parce qu'avant ça, tout le monde est un peu comme moi, donc jusque là, tout va bien, quoi. Les anniversaires, ben, on les fête pas avec des grandes fêtes à droite à gauche. Personne n'a de maison. Quand on est invité, nous, chez quelqu'un qui a une maison, c'est un truc de fou. Donc ouais, non, c'est vraiment quand je commence à aller sur Paris et côtoyer des personnes autres que celles de ma bulle que je me rends compte, ouais, en fait, ben, je viens de passer un truc pas mal. Mais en même temps, j'en sors bah, grandi, puisque je pense que c'est aussi par rapport à ce que j'ai vécu plus jeune que tout ce qui m'arrive aujourd'hui m'arrive. Très jeune, je suis donc moi assez rapidement passionné par le sport.
Il y avait un sport en particulier qui te plaisait ?
Plus jeune, j'étais dans le foot,
ouais.
Mais je commence par ce qu'on appelle l'école multiforme, qui est plutôt de la découverte sportive, où on vous met tous les mercredis matins quand vous avez à partir de 5 ans et vous touchez un petit peu à tout. Donc c'est de l'animation sportive plutôt que du sport. Et après, par rapport à ce que justement on ressent à cet âge-là, on s'oriente vers une association d'un sport en particulier si on est attiré plus par sport individuel, collectif, de balle. Et moi ensuite, c'est vers le foot que je m'oriente.
Ok, et tu te dis assez rapidement à cet âge-là que tu as envie d'en faire un métier, le sport ?
Je comprends que je suis bon déjà,
okay.
Puisque c'est une des seules choses, dans un premier temps, pour lesquelles je suis plébiscité, pour lesquelles on met en avant. Je suis toujours le capitaine d'équipe, je vois que je suis un cran au-dessus physiquement que pas mal de mes amis. Et donc, moi, c'est ce qui fait que j'arrive un peu à m'imposer. Plus jeune. C'est vraiment via le sport que
j'arrive à... Ça a été un vecteur de confiance en toi, tu veux dire un peu ?
Totalement, totalement. Okay. Et ensuite, la question Pauline, c'était.
C'était non, c'était la question. Je ne me rappelle plus. Quelle était la question Je t'ai demandé en fait. Je t'ai demandé si tu te voyais bosser dans le sport.
Ah ouais, exactement. Ouais. Je comprends déjà en fait qu'il est possible de travailler dans le sport quand je rentre en sixième et que je rencontre mon premier prof de sport. Parce que avant ça, pour moi. Travailler dans le sport, c'est être professionnel en football ou autre, quoi. Mais j'ai pas encore conscience.
Attends, c'est intéressant. Tu te projettes et tu te dis, je pourrais être un jour athlète, ou c'est un truc que tu t'es pas autorisé à penser?
Bah, je savais pas encore comment ça. Enfin, nous, il y avait pas encore ce. Enfin, les sports études, etc. C'était pas encore comme aujourd'hui. Il y avait pas encore tous ces recruteurs. On entendait une histoire. C'était presque une légende. Il y a un gars dans le 78 qui s'est fait repérer par tel club et qui est parti. Mais c'était pas quelque chose. Enfin, une chose à laquelle je pensais vraiment. Moi, je jouais au foot parce que j'aimais ça, parce que j'étais avec les copains, parce qu'on évoluait tous ensemble. On avait une équipe qui était plutôt bonne, on faisait des bons résultats, et je m'y retrouvais, quoi. Maintenant, j'avais pas encore l'idée d'être joueur pro ou faire ce qu'il faut pour y aller, en tout cas, dans cette direction. Donc, moi, c'est vraiment quand je commence le collège et que là, on a un prof de sport qui fait faire que du sport, où je me dis, ah ouais, ok, donc... On peut être prof de sport. On peut être
métiers,
prof,
quoi.
En fait, et faire du sport. Voilà, c'était ça. Pour moi, c'était le summum du taf. Parce que le prof de sport, ben, le mien, en tout cas, le premier que j'avais, il revenait toujours un peu bronzé. Parce qu'ils sont toujours en vacances, ils vont au ski, ils ont pas de copie à corriger. Et y avait le truc de l'éducation nationale. Où, nous, comme on l'entendait dans mon quartier, c'était genre, trouve un poste à l'éducation nationale, tu peux pas te faire virer, tu seras sur ton rail. Et c'est aussi un peu le top de ce que je pouvais entendre autour de moi. C'est-à-dire, hey Joe, de là où on vient, si t'arrives déjà à être prof de sport, t'as gagné. Et c'est pour ça que très longtemps, prof de sport, ça a été un de mes objectifs. Parce que autour de moi, en fait, il y avait pas de prof. Et en plus, si t'es prof et que t'es dans le sport, donc le domaine que toi, tu kiffes, c'est bon, t'as gagné. Et vraiment, ça a été, bah, jusqu'à ce que je le touche du doigt, cet objectif, c'était à ça que je m'accrochais.
Hyper intéressant. C'est fou quand on y pense, parce que tu l'as largement dépassé, cet objectif.
Ouais.
Quand on y pense, mais c'était peut-être une première étape mentale, déjà, pour te faire sortir de ta zone de confort,
ouais,
j'en sais rien.
Ou
quoi.
Peut-être bien, et c'est aussi, mais là, en fait, je suis en train de vivre une chose dont on ne me parlait même pas à moi.
Oui.
Ça veut dire que cette possibilité, elle était même pas
accessible
et imaginable. Puisqu'autour de moi, personne n'avait réussi à ce point-là. Et prof de sport, comme je le dis, c'était le top de ce que je pouvais atteindre. Donc moi, comme j'aime bien aller chercher les challenges et me challenger moi-même, c'est le top que je peux atteindre. Ok, ben on va aller le chercher. Et c'est vraiment dans cet esprit-là que je me suis mis en quête de ce job, de ce métier.
Alors, pour avoir fait pas mal de recherches sur toi, si t'acceptes d'en parler, je trouverais ça hyper intéressant. J'ai cru comprendre que autant le sport t'a tout de suite eu un don, quoi, d'une certaine manière, autant dans la partie plus études, t'étais plus en challenge, en difficulté,
ouais,
si je me trompe pas. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que justement, j'aimerais bien pouvoir montrer que en fait, il y a plein de gens qui réussissent, même s'ils rentrent pas dans les cases, tu vois, du système académique lambda.
Ouais, c'est clair. Après, c'est, enfin, j'étais même pas en difficulté. Je me mettais en difficulté.
Oui, tu foutais pas grand chose.
Voilà, ouais. C'était toujours ce qui revenait. C'était à des capacités, mais peut mieux faire. Parce que justement, j'avais certaines facilités, mais moi, j'étais avec un groupe d'amis où, voilà, on foutait la merde, faut dire ce qu'il y est. Et l'école, c'était pas trop ce qui nous intéressait. Et moi, je m'arrangeais toujours, par contre, pour avoir juste la moyenne.
Ouais.
Pas avoir de problème avec mes parents, c'est bon, il a la moyenne, c'est ça et passe, pas avoir quoi. De problème avec l'école, il est pas en dessous de la moyenne, il peut mieux faire, mais et donc voilà, j'ai navigué avec ça toute ma scolarité, enfin tout mon collège, puisque c'est en fin de collège que là je me prends vraiment un coup. Où en fin de collège, il y a les orientations. Moi, je veux justement faire le cursus universitaire qui va m'orienter vers la fac de sport. Et là, on me dit que ce que j'ai donné au cours de mon collège, c'était pas assez, et que j'allais être orienté vers un CAP BEP vente.
Donc, oh oui, en plus, rien à voir.
Rien à voir, à l'opposé de ce que je voulais faire. Et à l'époque, moi, mes parents, ils ont pas spécialement fait d'études. Donc, quand les profs disent, votre enfant doit faire ça, il est bon à ça, bah, c'est un peu la parole à suivre. Et moi, j'avais 14, 15 ans, et c'est ce que j'ai suivi, quoi.
Et donc, qu'est-ce que t'as fait? T'as effectivement,
J'ai effectivement fait un CAP vente et BEP vente. Parce que on m'avait envoyé vers là et on me disait Joe, t'as du bagou, tu chatches bien, tu vas pouvoir te débrouiller dans ce domaine-là. Ça t'a
peut-être servi aussi plus tard, tu me diras.
Ouais, il y a peut-être des trucs inconsciemment que j'ai utilisé que j'utilise peut-être aujourd'hui.
Mais du coup, comment est-ce que tu fais le switch? Parce que du coup, dans ta tête, tu dis c'est une étape, mais moi, je veux rester dans le monde du sport.
Ça, c'est l'objectif prof de sport. En fait, c'est l'adresse dans mon GPS. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment cette image que j'essaye de faire comprendre, surtout quand je parle aux jeunes, pour que ça leur parle et que ça leur saute aux yeux, c'est vraiment que moi, je m'étais mis dans ma tête prof de sport en toile de fond. Ce qui fait que là, je baissais la tête, j'étais au fond du trou en BEP, CAP, vente, ok. Mais quand je levais la tête, je voyais mon objectif final.
Et oui, comme tu t'es pas laissé à un moment donné... Je suis désolée, je t'interromps.
Non, mais...
Tu t'es pas laissé à un moment donné... influencer, tu vois, ou décevoir, et du coup, t'as pas voulu abandonner. Il y a pas eu la tentation de l'abandon à un moment donné.
L'abandon, il a failli arriver plus tard, après le bac.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que justement, moi, à partir de ce BEP et CAP vente là, je demande est-ce qu'il est encore possible de rejoindre un cursus universitaire. On me fait comprendre que oui, mais que les chances sont infimes et que il va falloir en faire trois fois plus que les autres parce que tu viens d'un CAP. Cette partie-là, limite, je leur disais, je vous ai pas demandé ça, est-ce que c'est possible? Oui? Ok, bah, je veux le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout déchirer en CAP, BEP. Et là, bah, il a pas fallu que je me foule beaucoup, mais je me sors le BEP avec 15 ou 16 et le CAP, pareil, quoi. Enfin,
d'accord.
Je suis dans le top au niveau de ce diplôme-là, ce qui me donne la possibilité d'accéder à une première d'adaptation et de rejoindre un cursus normal.
Qu'est-ce qui fait, Joël, qu'à un moment donné, donc ce rêve de prof de sport se transforme et que tu deviens coach et en plus à l'international, c'est-à-dire que là t'as franchi plusieurs étapes d'un coup où en fait t'étais censé être prof en France quand même globalement,
ouais.
Et puis maintenant en fait on te voit un peu partout, bon bien sûr en plus à la télé etc. Mais je veux dire c'est quand même assez original de se dire que t'étais comme tu dis hein, ça vient de toi dans ta petite ville dans les Yvelines. Et tout d'un coup, en fait, on te voit partout à l'échelle mondiale.
Ouais. Bah, le tournant, il se fait, après, comme je disais, après le bac. Après le bac, en fait, je fais une année où j'arrête l'école parce qu'on m'accepte pas mon entrée en fac. Et le lycée dans lequel je suis m'oriente et fait le choix à ma place même et me met en premier choix au lieu de la fac de sport un BTS force de vente. Sauf que là, j'ai 20 ans. Et je suis en capacité de dire non et même d'aller au clash avec mes parents puisque arrêter l'école bien sûr pour eux c'était pas dans les plans, mais voilà, à 20 ans c'est bon, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux, donc me racontez pas qu'il faut que j'aille vers un BTS force de vente, moi ça m'a rien m'apporté. Et là je décide d'arrêter l'école cette année et je me retrouve donc à faire des déménagements répondre sur des plateformes téléphoniques à des enquêtes. Ouais. Préparateur de commandes à la Cernam à Trappes, sur les quais. Et en fait, cette année-là, je me vois, c'est cette année où justement je me pose des questions. Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que, mais en fait, cette année-là, en même temps, elle est dure, mais elle m'apprend tellement sur ce que je ne veux pas faire, qu'elle me booste. Plus qu'elle me,
oui,
plus qu'elle m'enfonce.
Je veux pas rester là-dedans.
Je me suis dit, ça y est, j'ai vu là où je veux pas être. C'est-à-dire enchaîner les petits boulots à droite, à gauche. J'étais encore chez mes parents. J'avais 20 ans. Et quand je levais la tête, j'apercevais encore la toile de fond qui me disait prof de sport. Mais bon, ça se floutait un petit peu, on va dire.
Tu vois, c'est hyper intéressant quand t'en parles. Je réalise que je pense qu'il y a peu de gens qui ont une expérience comme ça où ils visualisent, en fait, la vie qui, d'une certaine manière, ils ont pas envie d'avoir, tu vois.
Ouais.
Mais qui a un super repoussoir pour te donner de l'ambition, au final.
Et, à chaque fois que je parle aux plus jeunes, je leur explique, justement, si là, vous êtes dans une situation dans laquelle, vous n'avez pas décidé d'être ou, vous ne voulez pas être, utilisez-la, justement, pour aller là où vous voulez.
Ouais,
moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Je disais, mais non, c'est impossible, avec le kiff du sport que j'ai, avec l'amour du sport que j'ai, que je me retrouve là à faire des déménagements et ce qui fait que à la fin de cette année, je prends mon dossier scolaire et je vais toquer à la porte des facs.
T'y vas, quoi.
Ouais. Donc là où je me battais, quelques années auparavant pour arrêter l'école, là, j'étais en train de supplier les écoles de me prendre. Et jusqu'à ce que, ce qu'une fac Paris-Orsay, Paris 11 m'accepte. Et je suis encore la semaine dernière, j'ai mangé chez un de mes profs. Encore un de mes profs qui m'a rappelé pour aller parler aux élèves de la même licence que moi. Enfin, c'est assez fou. Même quand je me retrouve devant eux dans l'amphi, pour moi, ça me parle et j'espère que eux, ça leur parle encore plus parce que là, je suis pas en train de leur raconter l'histoire de quelqu'un qui m'a raconté l'histoire de quelqu'un. Non, moi, j'étais exactement là où vous êtes. Et le prof qui est là, il peut en témoigner puisque c'est lui qui m'a formé. Et ça, je pense que pour eux, ça n'a pas de prix, ouais. De pouvoir avoir, cette expérience humaine et le mec, il est devant nous et il nous raconte ce qu'il a vécu.
Ça m'évoque un truc que tu dis souvent, pour avoir observé beaucoup ce que tu dis, c'est ta vision de la chance, quoi, et de comment saisir la chance ou comment la susciter, enfin en tout cas pas la laisser
plutôt,
passer.
Plutôt ouais, plutôt ça, la susciter.
Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est ça, quoi, c'est qu'en gros, t'as pas attendu que ça te tombe dessus, quoi.
Ouais, et c'est pour ça que quand on voit mon parcours de l'extérieur, très souvent, on peut penser à de la chance. Quand on connaît les choses, moi en tout cas, j'essaye de laisser peu de place à la chance. Et comment je définis la chance dans mon livre, justement, la chance, pour moi, ça a été la rencontre de la préparation et d'une opportunité. Puisque à chaque fois, quand l'opportunité tombe, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire avant. Et quand je dis avant, c'est pas juste une semaine, deux semaines ou un mois avant. C'est-à-dire, quand on me présente Kanye West, le fait de m'être battu déjà à l'époque pour sortir de mon BEP, aller accrocher une fac de sport, quand je sors de la fac de sport, que je me retrouve dans un milieu professionnel qui me convient, mais que j'ai des barrières à cause de l'anglais, et que je décide de partir en Australie pour l'anglais, et quand on me ramène un Kanye West sur le plateau, tous les feux sont au vert, toutes les planètes sont alignées pour que je puisse dire « oui, je suis prêt ». Et tout ça, je suis prêt pourquoi ? Parce qu'il y a ces années avant où j'ai fait ce qu'il fallait, les bons choix, etc. Donc pour moi, la chance, c'est plutôt comme ça que je la vois. Parce que ce jour-là, c'était tout sauf de la chance.
C'est clair. Alors justement, tu me fais quand même une belle perche là, parce que j'avais envie de te poser la question, mais c'est quoi cette histoire, quoi ? Comment est-ce que tu rencontres à un moment donné Kenny et Kim, quoi, du coup, si
ouais,
je comprends
bien ? Avant de les rencontrer eux, je rencontre Steve Gutman, qui est un peu mon mentor et qui est un peu la personne qui va m'introduire à l'international. Puisque lui, je me retrouve à le coacher à l'usine. L'usine qui est une salle de sport dans le quartier de l'Opéra, assez high profile, avec le monde de la finance, la mode, le business, le cinéma qui s'y croisent. Et lui, Steve Gutman, c'est un Américain qui vit à Miami et qui a un appartement à Paris et qui vient 3-4 fois par an à Paris pendant 2-3 semaines et il passe à l'usine.
Et toi, t'es prof à l'usine,
à cette époque-là, je suis coach à l'usine en 2012.
Okay.
2012. Et ça aussi, j'aime bien à chaque fois le souligner. Ma rencontre avec lui et ce qui change ma vie après par la suite, ça tient à 30 secondes.
Qu'est-ce qui se passe?
30 secondes. C'est-à-dire que je suis en train de faire un stretch avec une de mes clientes. Et, avant de finir la séance, dans le miroir, je vois justement Steve Gutman en train de faire un exercice avec une charge et il le fait plutôt mal. et il a 60 ans. Je me dis, oula, le petit bonhomme, il va se faire mal. Donc, je dis à ma cliente, excuse-moi, ben, je vais juste le corriger, je reviens. J'y vais, il parle pas français. Ben, il s'avère que je suis allé en Australie, donc je comprends ce qu'il me dit et je lui fais comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bien. Correction, boum boum, je retourne à mon stretch, je finis ma séance et je rentre chez moi.
Toi, t'as aucune notion de qui c'est à ce stade?
Ah non, bah non, ouais, c'est un petit vieil homme, enfin vieil homme soit, la soixantaine à l'époque, qui est en train de faire sa séance et moi, juste, je prends ces 30 secondes pour le corriger. Et je rentre chez moi, le lendemain, je reviens, sur mon planning, je vois Steve Gutman. Je demande à la demoiselle de l'accueil, bah, qui c'est pas un de mes clients habituels. Elle me dit non, il y a quelqu'un qui est descendu hier et qui a demandé une séance avec le coach qui est sur le plateau actuellement. Donc, le coach, c'était moi. Et cette personne qui est descendue, c'est la personne que j'ai corrigée. Et quand je le vois arriver, effectivement, je me souviens que la veille, c'est ce petit monsieur que j'ai corrigé et on commence à travailler comme ça ensemble. Et c'est après un an que arrive la présentation avec Kanye West, où il montre une photo de lui et de Kanye West. Et là, il me dit que, bah, il arrive sur Paris, qu'il a besoin d'un coach parce qu'il a enregistré son album pendant 4 mois à Paris. Est-ce que Joe, tu te sens capable de gérer un mec comme ça? Et comme je l'ai dit avant, les feux étaient au vert, les planètes étaient alignées. J'ai dit oui et c'est parti.
Incroyable.
Ouais.
La chance, ça se suscite, mais ça se prépare.
Ça se prépare, ouais.
Ça se prépare sur des années, sur d'après des ce années. Que je vois.
Ouais, parce que, pareil, hein, si je vais pas en Australie,
ouais.
Avant ça, je parle pas assez bien anglais pour gérer quelqu'un comme Kanye West. Et encore une fois, cette chance, cette opportunité, elle me passe sous le nez. Parce que la préparation n'était pas au rendez-vous. L'opportunité, elle était là. Et c'est beaucoup comme ça que pas mal de gens se voient passer des chances, entre parenthèses, sous le nez. Et ils les voient peut-être même pas, c'est juste qu'eux n'étaient pas prêts, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Qu'est-ce que tu pourrais dire, Joël, tu vois, à des jeunes qui nous écoutent? J'ai l'impression que t'es assez investi en plus dans le fait de, bah, de transmettre, quoi, finalement.
Ouais,
enfin,
ouais,
c'est
ouais.
Pour ça que t'as écrit un livre, t'essayes de faire ça vachement. Et notamment des jeunes, justement, qui ont un peu l'impression qu'ils ont pas de chance, qu'ils vont jamais y arriver, qu'ils vont pas s'en sortir, tu vois, qu'ils ont, comme tu dis, justement, pas les feux au vert.
Ouais.
C'est quoi le message que t'aurais envie de leur faire passer?
Ça va paraître simple et bête, mais déjà se bouger les fesses, parce que rester dans sa bulle, comme moi j'avais pu le faire jusqu'à mes 16-17 ans, forcément, quand on est entouré de gens qui n'ont pas spécialement de réseau, quand on est entouré de gens qui n'ont pas spécialement connu le succès, et quand je dis succès, c'est pas forcément financièrement, mais juste, comme je disais, hein, si imaginez-vous que moi, mon objectif, c'était d'être prof de sport. Non pas que prof de sport, c'est pas un métier génial, je serais encore content aujourd'hui si je revenais à prof de sport, mais quand on vient de là où je viens, prof de sport, ben on le perçoit comme une limite. C'est si on arrive à ça, on a réussi. Et côtoyer des gens qui m'ont fait comprendre ensuite qu'il y avait plus que ça, et ben ça, plutôt on le côtoie, plutôt on l'entend, plutôt on le comprend, plus rapidement justement on va aller se les créer, ces chances. Et pour ça, ben il faut sortir de son quartier, de sa ville de province où on a grandi et qui est à l'écart de tout, voyager dans un premier temps peut-être à l'échelle régionale, c'est-à-dire que moi je montais souvent sur Paris parce que c'est là-bas que tout se passait, et là-bas j'ai fait des connexions qui m'ont permis de bouger à l'échelle nationale, et quand j'ai compris que le monde était vaste et qu'il y avait pas mal d'autres choses à découvrir, ben je suis allé en Europe jusqu'à aller en Australie. Et cette année en Australie, pour moi, elle a été,
Qu'est-ce qui décisive. S'est passé en Australie? Qu'est-ce qui fait, enfin, au-delà de l'anglais, ça, j'ai l'impression que c'est
ouais,
quand
déjà,
même déjà
ouais,
cœur.
Pour la
mais
suite,
qu'est-ce
ouais.
qui fait que ça a changé ton mindset, j'ai l'impression?
Ben, en fait, ça m'a permis de comprendre que j'étais capable de reconstruire la bulle dont je parlais du quartier en dehors de mon quartier avec des personnes différentes que celles de mon quartier et surtout des personnes vers lesquelles je ne serais pas allé si j'étais resté dans mon quartier. En fait, on est vraiment dans cette bulle où, ben, on croit à la fin que cette bulle, c'est la vie, quoi. Sauf que, ça ne l'est pas. Et en allant en Australie, pourquoi j'ai choisi l'Australie? Parce que justement, c'était pas la porte à côté.
Ah ouais.
Parce que justement, tout le monde n'allait pas venir me rejoindre. Et que si moi, j'avais des galères, eh ben, j'étais tout seul. Et maintenant, est-ce que moi, je peux faire le bonhomme maintenant? Et assumer mes erreurs, et rebondir, et repartir. Parce que c'est pas mes parents qui allaient m'envoyer un Western Union. J'avais 1 500 € quand je suis parti et j'avais un billet, un open ticket où qui avait déjà j'avais déjà mon retour au cas où. Mais avec 1 500 €, si j'allais pas au charbon, je revenais. C'était 2 semaines de vacances en Australie, cool quoi. Et ça, ouais, ça les gens ils comprennent pas. Pourquoi t'es pas allé à Londres? parce que justement Londres, j'avais une galère où je faisais les mauvais choix. Quoi. 2 heures, 3 heures, je suis à la maison. 2 heures, 3 heures, les potes, ils peuvent monter et je fais que de déplacer ma bulle, quoi.
Donc si je retiens le truc là, c'est tu te crées tes propres contraintes pour te forcer. En fait, tu te forces à brûler tous les ponts derrière toi, quoi, pour avancer.
Je me mets dans cette zone d'inconfort. Mm. Et l'objectif, c'est de se débrouiller, d'être à l'aise dans cette zone d'inconfort. Et quand ça, tu le ressens, c'est bon, t'as passé un cap. Et moi, je sais que être trop à l'aise, parfois, c'est un indicateur de « Ouh, fais attention ».
Et comment tu le sens ?
Fais attention. Bah, quand justement, je sens plus ce danger, je sens plus ce truc où « Attention, Dio, fais les bons choix, fais… Ouais. » Quand il n'y a plus de choix à faire, quand je suis trop à mes aises, bah ouais… Parce que pour moi, le confort, c'est le danger pour les ambitieux. Mmh. Être trop à l'aise, bah, on tente plus de choses, on essaye plus, on se met plus en danger et on se satisfait de ce qu'on a. Et donc, je suis toujours grateful. En français, c'est
toujours reconnaissant.
Je suis toujours reconnaissant de tout ce que j'ai, peu importe l'étape que je suis en train de passer ou le niveau auquel je suis. Mais à un moment donné, il faut aussi que je me dise, Joe, est-ce que tu peux aller chercher plus? Mmh. Oui, si oui, vas-y. Reste pas. Et c'est pour ça que je tente de nouvelles expériences. Là, la télé, la Star Academy, beaucoup de gens me demandent, ben, pourquoi tu vas à la Starac? T'es déjà à LA avec les Kardashians et une clientèle de... Ben, parce que c'est quelque chose que je connais pas. C'est quelque chose qui m'intéressait. Quelque chose dans lequel je voulais mettre le pied. Et là, ben, ça va cool. Là, je suis dans une phase où presque...
T'apprends des trucs.
Je suis en train d'apprendre. Et donc, bah, je vais là où je ne connais pas. Et moi, ça m'intéresse, ça me challenge.
T'as déjà pris des risques où t'as eu des fails?
Où j'ai eu des fails?
Pour parler en bon français, où tu t'es planté.
Ouais, où j'ai eu des échecs. Et je... Ouais. Pas vraiment. Il y en a où à chaque fois, ouais, il y a des fois où ça a failli. Mais je faisais en sorte que même si j'étais en train d'échouer, ça se transforme en quelque chose de positif pour moi. Et au final, c'était pas un échec.
T'as un exemple?
Ben, un des plus gros pour moi, ça a été le départ aux États-Unis. Ouais, si...
Donc, le contexte, c'est que tu pars aux États-Unis parce que t'as été mis en relation avec Kanye.
Ouais.
Et que du coup, il t'appelle concrètement.
Enfin, après 2 ans de travail avec lui, ouais. Je rencontre Kanye, je commence à travailler avec Kanye West en 2013, début 2013, janvier 2013. Et il est 4 mois à Paris. Pendant son séjour à Paris, moi, il me demande de voyager avec lui. Et déjà, sur 10 jours, on se retrouve à faire Paris, Abu Dhabi, Abu Dhabi, les Seychelles, Johannesburg, Johannesburg, Paris, en 10 jours.
C'est vrai que tu dis qu'ils ont des vies pas faciles
quand
même.
C'est,
hein.
Et ouais, c'est clair, c'est clair. Mm. Et quand je vois tout ça de l'intérieur... Franchement, je me dis, ok, je comprends pourquoi ils sont là où ils sont. Je comprends pourquoi ils prennent les sommes qu'ils prennent et ils les méritent parce que ouais, c'est assez fou. Et en même temps, le côtoyer et être dans son monde, moi, ça m'apprend beaucoup. Mm. Et en fait, moi, je reste là et j'observe. J'ai observé pendant les 2 ans de voyage et de tournée avec lui. J'ai fait qu'observer. Parce qu'après ces 4 mois, lui, il rentre. Il me dit, bah, merci pour ce que tu m'as apporté. Pendant ces 4 mois à Paris, les allers-retours entre le studio et la salle de sport, ça m'a mis dans un état d'esprit où j'étais frais artistiquement.
Créatif, quoi,
ouais. Ouais, voilà, exactement. Et ça m'a permis de donner ce que j'ai pu donner au niveau de l'album. Et aussi maintenant, physiquement, ce que je vois, je l'avais jamais eu avant. Donc merci pour ça. Et il m'écrit un mail où il me dit tout ça, que je vais sûrement encadrer quelque
stylé,
part.
Quand même.
Ouais, grave. Il est dans le livre.
Ah, trop
il
bien.
Est dans le livre.
Ah ouais, je l'ai
encadré.
En photo,
mais
cool.
Il est dans le livre.
Ah ouais. Ah, trop sympa.
Il est. Ah ouais, j'étais obligé. Il est là.
Ah, trop sympa.
Kanye West, qui me dit justement, ouais, merci pour ce que t'as fait. Ta méthode, elle est mortelle. Et ça me touche parce que moi, on vient de parler d'où je viens et
oui,
ce que j'ai fait pour arriver là. Je me dis, ça y est, c'est bon. Encore une fois, parce que je vois petit. Mm. Après cette expérience, pour moi, c'est fini. Ça peut pas aller plus loin. Je voulais être prof de sport. Donc déjà, je suis au-delà de ce que je voulais être. Je coach des gens qui sont plutôt high level, high hand. Et là, j'ai Kanye West qui me dit que t'as changé mon corps et que j'ai jamais été aussi bien physiquement et artistiquement. Ça y est, qu'est-ce que tu peux faire de mieux que ça? Eh ben, il me rappelle. Eh ben, il y a toujours mieux comme quoi.
Il y a des trucs à faire.
Il y a des trucs à faire. puisqu'il rentre, c'est l'époque où il est avec Kim Kardashian. Kim Kardashian accouche en juin 2013. Et il me dit, est-ce que tu peux être à LA juillet, août, septembre pour aider Kim à lui faire perdre le poids d'après grossesse. Et donc là, je pars 3 mois à LA et on fait le taf. Elle perd son poids. Mon nom commence à circuler dans leur sphère là-bas, dans leur monde. Moi, je rentre et encore une fois, je me dis, eh ben, elle est belle déjà. Je viens de travailler 4 mois avec Kanye, 3 mois avec Kim. Je repars dans mon petit train-train parisien et c'est déjà une belle expérience. Et il me rappelle et il me dit, Joe, est-ce que t'es dispo là? Je vais partir 3 mois pour défendre l'album que j'ai enregistré à Paris en tournée américaine et canadienne. Est-ce que t'es dispo? On fait tout l'Amérique du Nord. On se retrouve à faire 42 dates en 3 mois. Madison Square Garden 2 fois, Staples Center. Enfin, moi, c'est pareil. C'est une tournée où je vois tous les artistes avec lesquels j'ai grandi au niveau du hip-hop. Et là, je les vois physiquement. On se check, on se serre la main. Je passe du temps avec certains. Enfin, je suis dans un monde...
C'est presque un rêve.
Ah ouais, bah là pour moi, je suis dedans. Ah, clairement. C'est tellement fou que... Parce que moi, là, je suis tout seul aussi.
Oui, t'as pas famille, amis, t'as rien, quoi.
Et vivre tout ça tout seul, ça fait bizarre quand même. Parce que t'as envie de kiffer, mais en même temps, t'es tout seul. Donc tu peux pas t'extasier quand tu vois un artiste...
Oui, puis tu vas pas dire à Kanye, c'est incroyable.
Ouais, bah ouais, avec lui, je reste pro, non-stop. À aucun moment, je lui fais comprendre que là, je suis en train de vivre... tu vois,
kiffes.
Ouais, que je suis en train de kiffer. Parce qu'il va me dire, t'es quand même au travail, je te paye. Kiffe pas trop, mon gars, ok? Non, voilà, donc ça, c'est un truc que je garde à l'intérieur. Et c'est tellement trop que la semaine où on est à New York, on a 4 dates à New York, donc on reste la semaine. Et là, je dis à un pote, eh, vas-y, prends juste un billet d'avion et viens.
Viens, faut que tu le vois pour le croire.
Et même moi, il faut que je le vive avec quelqu'un pour pouvoir, tu vois, m'extasier quand je vois un acteur ou un... Et ouais, et il vient et franchement, cette semaine, elle est super cool. Parce que pareil, j'ai des chambres d'hôtel de fou et je suis tout seul là-dedans. Je rentre après un concert, c'est ennuyant, je suis là tout seul. Alors que là, ouais, non, cette semaine, elle était plutôt cool. Et c'est plutôt ma dynamique, le partage, essayer de kiffer... Mais avec les potes, ouais.
Et alors, du coup, tu décides à un moment donné de vivre aux US.
Ouais, après les 2 ans.
Mais
ouais.
Si je me trompe pas, c'était pas une évidence parce que t'as pas de visa.
Non, ouais.
Finalement, t'étais embauché par plein de gens, mais c'est pas un contrat de travail, quoi.
Non, ouais. Ben, en fait, là, je suis de 2013 à 2015. Pour moi, les voyages, ça devient trop. Sachant que j'ai loupé des anniversaires de mes enfants.
Oui, parce que t'as des enfants
à ce
stade.
Parce que j'ai ma fille qui a 2013, elle est 2011, donc... Elle est 2008, donc elle a 4 ans et demi, 5 ans. Et mon fils qui a 1 an et demi. Donc, même ça, par rapport à la vie de couple familiale, ça devient très physique.
Donc, on peut quand même dire que tu as fait un paquet de sacrifices pour ta vie professionnelle.
Ouais, ces 2 ans-là font partie des plus grosses. C'est pendant ces 2 ans-là que j'ai fait les plus gros sacrifices, c'est clair.
Et tu t'en rends compte au moment où tu le fais?
Pas spécialement.
Ah ouais.
Ouais. Pas spécialement, parce que à ce moment-là, je suis en mode, pour moi, c'est le taf, j'y vais, il y a pas de sacrifice, c'est le taf, il faut le faire, et que c'est plutôt avec le recul. Et une fois que ma femme est avec moi aux États-Unis et qu'on habite aux États-Unis, que quand tout ça s'est calmé, qu'on regarde en arrière et qu'on se dit, bah ouais, franchement, ces 2 ans-là, en fait, c'est ça qui nous a rapprochés, parce que si la finalité, elle est pas ce qu'elle est, on est peut-être plus ensemble.
Ouais, et puis tenir ces 2 années, c'est quand même un bon signe pour le couple.
Ouais, c'est clair. Clair.
Et donc tu finis par décider de vivre aux US.
Ouais.
Pas un moment tu te dis que t'as envie de rester en France. T'hésites ou pas?
Quand l'opportunité elle arrive, non, j'hésite pas. Et de toute façon, je peux plus hésiter. Parce que comment ça se passe, c'est que après tous ces 2 années de voyage, etc., je fais un point avec Steve Gutman, qui est la personne qui m'a présenté Kanye West. Et lui, en fait, il voyait des choses en moi que moi-même, je voyais pas.
C'est-à-dire?
Ben, il m'expliquait que j'étais capable de monter quelque chose aux États-Unis. Parce que ce que je faisais au niveau du coaching, ça y est, j'avais atteint mes limites en France. Et il me disait que si quelqu'un comme Kanye West ou Kim Kardashian, elle aime ce que tu fais, c'est que là-bas, t'as une clientèle. Donc, ta prochaine étape, c'est là-bas. Et au cours de ce repas, moi, quand il me dit ça, je lui dis, mais parce que on est là, moi j'ai fini la tournée, je rentre après des voyages et je lui dis voilà, il me dit ok, c'est quoi ton prochain challenge? Et moi j'étais pas encore dans ce truc de me challenger. Déjà là, je venais de me challenger 2 ans.
C'est clair.
Ça y est, ben moi je viens de faire 2 ans avec les Américains, j'ai voyagé, vu le monde, mon travail, bah, je suis passé un cran au-dessus. Maintenant, je reviens à ma vie parisienne, mes enfants, ma femme, et on repart. Et il m'a dit, mais non, Joe, toi maintenant, c'est là-bas que tu dois aller. Et moi, j'étais encore dans quelque chose de petit parce que même avec tout ce que j'avais fait et avec les personnes que j'avais sous la main, je me disais, mais comment je vais faire? C'est pas possible, les États-Unis, c'est trop dur pour y aller. J'ai personne. Et là, il me dit, quoi? T'as personne.
C'est clair. T'as personne. T'as deux, trois personnes.
T'as Kanye West sous la main. Mais pour moi, c'était pas concevable, concevable de demander quelque chose à Kanye West. Pour moi, je travaille avec lui. C'est lui qui me demande de voyager, de bouger, de me déplacer pour lui. Mais moi, je vais pas aller voir Kanye West et lui dire, est-ce que tu peux me faire le visa? Et il me dit, écris-moi le mail, là, tout de suite.
Incroyable.
Écris-moi le mail devant, que tu lui dis que toi, tu veux y aller. Et c'est un truc auquel je pensais, mais j'arrivais pas à le matérialiser avec un email. Jusqu'à ce moment-là, où il me dit, vas-y là, perds pas de temps. Et quand j'écris cet email, 24 heures après, j'ai une réponse. Dépose tes documents à l'hôtel. 48 heures après, tout est signé, envoyé, et un mois et demi après, j'ai le visa. Et donc là, on est en mai 2015. Et c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, je te disais, je peux plus hésiter. Je veux dire, lui, il a mis tellement de choses, et il a mis tellement de croyances en moi, que là, je peux, c'est même plus pour moi que je le fais. Dans un premier temps, faut pas que lui, je le déçoive. Et donc, c'est parti pour le déménagement, on enclenche tout. Je repars 2 semaines à LA, je vais chercher école, appartement, truc. Moi, je venais d'acheter un appart, faut trouver un locataire. Ma femme, faut qu'elle se mette en congé sans solde. Elle travaille chez Renault à l'époque, au siège social. Donc, faut trouver un moyen, boum, parce qu'en août, les enfants, ils reprennent l'école, on est en mai. Donc tout ça, ça se fait vraiment en... J'ai pas le temps de réfléchir. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que j'y vais.
Ouais.
Et c'est pas bien parce que la première année...
Ouais, galère.
Dû à galère. Voilà, exactement. Bon. Ouais, ouais.
Ouais, mais bon, galère. Au final, tu vois, c'est ça qui fait que t'as avancé aussi. Si t'as été planifié, ça se trouve, tu l'aurais même pas fait.
Ouais, peut-être pas, ouais. Peut-être pas. Et c'était quelque chose... Je sentais qu'il fallait que je le fasse. Si je voulais passer un certain cap à ce moment-là, c'était là-bas que ça se passait. Parce que, en France, j'avais atteint ce plafond de verre où j'étais, comme je disais tout à l'heure, j'étais bien, j'étais à l'aise, j'avais une très belle clientèle française au niveau des célébrités, acteurs, etc. J'étais dans la plus belle salle parisienne. Tout allait bien. Presque trop bien.
Oui, t'avais pas besoin. T'aurais complètement pu
J'avais pas spécialement besoin. Non, c'est clair.
Je voulais te demander quand même, Joël, des coachs sportifs, il y en a quand même des paquets. Qu'est-ce qui fait pour toi, toi qui es un expert du métier, que tu tires autant ton épingle du jeu? Je ne vais pas te demander les secrets de ta méthode, mais d'une certaine manière, c'est quoi pour toi ce qui fait ta grande différenciation? Ce qui fait que tu as eu autant de succès? Alors, il y a le fait de savoir saisir sa chance ou de la susciter, bien sûr.
Ouais.
Mais au fond, si tu devais essayer de résumer, pour toi, c'est quoi les grandes différences de...
C'est
Coach
simple,
Joe. Hein.
Coach Joe, sa principale motivation, c'est l'humain. Donc moi, mon métier, je le vois comme 90% de relationnel avant de parler sport. Alors que je suis coach sportif. Les coachs purs, les autres
les
coachs ou certains
quoi.
Coachs, ouais, voilà, ils sont beaucoup trop axés sur la technique, la théorie, on sait tous le faire, hein, le squat, on sait tous faire gagner du poids, perdre du poids, etc. Donc, la formation, elle est identique. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ce que tu vas apporter extra-sport. Et ça, c'est ta personne. Donc ça, c'est quelque chose que je peux même pas apprendre à quelqu'un. Je vais pas te dire comment je ressens les gens, comment je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Ça, c'est toi et ton ressenti. Tu l'as ou tu l'as pas. Donc, moi, je sais que quand j'aborde une séance, avant de parler sport, j'essaie de comprendre qui j'ai en face de moi. Et ensuite, j'adapte ma séance à la personne que j'ai en face de moi. Et il y avait Vanity Fair qui avait fait un article sur moi et qui m'avait, et c'est une étiquette que je garde et que je vais maintenir, qui avait dit « Coach Joe, c'est la haute couture du coaching ». Et de la même manière qu'un designer, il doit se déplacer et aller prendre les mensurations et connaître les goûts de la personne pour faire une robe qui va lui plaire, et ben moi, j'ai besoin de cerner psychologiquement la personne, qui elle est, où elle veut aller, qu'est-ce qu'elle a fait pour pouvoir lui faire une séance qui lui colle.
Tu veux dire que typiquement un Kanye ne va pas du tout avoir la même séance que ton Steve Gutman par exemple.
Non, ouais, pas du tout, ouais.
Bon, alors, au-delà de leur âge, etc., ouais. mais au niveau de la personnalité.
Au niveau de la personnalité, deux personnes qui vont venir me voir avec un même objectif pourront repartir avec deux séances totalement différentes. Parce que l'une sera peut-être pas dans le même mood, elle vient de se séparer, elle a un travail qui la stresse, elle a pas besoin d'autant d'explications parce que c'est pas quelqu'un de cérébral et elle veut juste se dépenser. Et l'autre qui est ingénieur, cadre, qui a une famille, truc, et qui lui va chercher à comprendre, tout ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui travaille quand je fais ça. Donc ouais, il y aura plus d'explications, des exercices différents, on va plus intellectualiser la pratique, enfin, c'est vraiment du sur-mesure.
Trop drôle. Ouais. Je visualise assez bien tes deux personnages.
Selon les, ouais, et des comme ça. Moi, en fait, la chance que j'ai eue, c'est justement à travers l'Australie et toutes les différentes expériences que j'ai pu vivre. J'ai côtoyé, j'ai vu, je me suis amusé, j'ai travaillé avec tellement de profils différents qu'en fait, ça a été un atout pour mon travail de coach après. Il y avait tout de suite certains profils, quand je les voyais, boum, je sais dans quelle catégorie.
Tu sais les identifier,
je me suis déjà frotté à ce genre de profil. C'est ce genre de séance ou ce genre d'approche que je vais aller chercher avec cette personne-là.
Alors, il y a une question que je voulais te poser. C'est beaucoup de gens qui écoutent le podcast me disent, moi, j'ai un problème de motivation et notamment pour le sport. Mais ça peut être aussi pour le business, tu vois.
Ouais.
J'ai du mal à avoir de la discipline. J'ai du mal à me bouger. Quand j'ai des difficultés, j'ai envie de tout arrêter. Et toi, ton métier, globalement, c'est quand même aussi de donner de la motivation aux gens. Parce que comme tu dis, c'est pas uniquement la partie technique.
Oh, c'est clair.
Est-ce que t'as des astuces, des conseils ou juste un message à faire passer aux personnes qui parfois sont en difficulté, ils sentent, tu vois, qu'ils ont du mal.
Moi, comment je le fais, c'est que je fixe des objectifs à court, voire très court terme.
Qu'est-ce que tu veux dire?
Pour avoir ce truc de satisfaction, de justement d'avoir atteint un objectif. Et ça, multiplié.
Faut qu'il y ait une petite récompense, quoi.
À chaque fois, voilà. Donc, c'est clair que si je regarde le dernier domino qui est à 500 mètres, celui-là, je peux pas le faire tomber. Mais si je commence à pousser le petit qui est devant moi, qui tombe, hop, je suis content. Mais en tombant, il fait tomber le deuxième, qui est un peu plus grand. Je suis content. Et je sais que en accumulant ces petites victoires, je maintiens cette motivation. Et c'est pas j'essaye, je suis motivé, j'ai quelque chose, surtout que la motivation, c'est quelque chose de momentané. Contrairement à la discipline qui s'inscrit dans le temps beaucoup plus. Donc il faut pas faire des choses sur un côté.
On peut pas être motivé tout le temps au final.
Non, ah ouais, et c'est pour ça que la discipline pour moi prime sur la motivation. On va être et souvent ce qui se passe aussi, c'est que la motivation, elle peut être extrinsèque, c'est-à-dire je viens de regarder un film Rocky, je suis motivé, demain je vais au sport. Mais la semaine prochaine, s'il n'y a pas de Rocky, ou s'il n'y a pas mon ami qui, lui, a le corps parfait et qui est là pour me booster sur une séance, s'il n'est pas là la semaine d'après, alors que la discipline, c'est quelque chose qu'on se doit à soi-même. C'est-à-dire, demain, j'y vais. Et si j'y vais pas, c'est moi que je déçois. C'est pas l'autre, c'est pas... Et s'instaurer comme ça des objectifs à très court terme, peut-être des fois... plus facile à atteindre, ça permet de maintenir cette satisfaction de la réussite qu'on a à les atteindre et à maintenir cette motivation. Pour
super
moi.
Intéressant. C'est marrant. Je te partage une mini anecdote. J'ai eu la chance sur le podcast, je sais pas si tu le connais, d'interviewer Patrick Mouratoglou. Tu sais, le coach de Serena Williams.
Coach de tennis, ouais. Il est vers chez moi. Il est dans 78, son premier centre derrière plaisir,
ouais,
là-bas.
Complètement. Ouais. Et il me disait que, un peu de la même manière, tu vois, il fait des objectifs parfois presque trop faciles.
Ouais.
Ou en gros, il fait exprès pour que la personne réussisse juste pour qu'elle garde
des fois,
le mental.
Des fois, c'est des verrous psychologiques qu'il faut juste, aller chercher à ouvrir, à débloquer. Et une fois que ça, c'est débloqué, le verrou d'après, ça peut être un gros truc. Mais des fois, ils arrivent pas à passer ce petit quelque chose qui va faire la différence. Et ça, en maintenant des objectifs très faciles à court, voire très court terme, c'est-à-dire accessibles là, dans une semaine, si on fait ça tous les jours, la semaine prochaine, t'arrives à faire ça. Waouh, ça marche.
Ouais, okay. Et puis tu vois le progrès.
Et puis voilà, ouais. Et la personne, elle se sent avancer, elle se sent passer un cap. En tout cas, dans les séances... je l'utilise beaucoup.
T'as déjà eu des cas de personnes qui ont des vrais problèmes de confiance en elles, sportivement ou pas. Et ça, du coup, comment est-ce que ça se gère?
Très souvent, les personnes, quand elles arrivent, elles ont des problèmes de confiance, pas spécialement au niveau du sport, mais elles viennent vers le sport pour essayer de régler ces problèmes de confiance. C'est-à-dire, si j'arrive à prendre un peu plus de masse musculaire ou alors avoir une posture où la poitrine est plus sortie, les épaules tirées en arrière, quand je suis en réunion ou quand je suis dans ma salle ou quand je suis au sein d'un groupe, je sais que je vais en imposer un peu plus et peut-être qu'on m'écoutera un peu plus. Et des fois, il y en a qui sont pas spécialement de grands sportifs, mais ils comprennent l'importance que le sport va pouvoir avoir dans leur discipline, dans leur métier ou autre.
Et tu constates que ça a un réel impact, enfin cette discipline et le fait de bah de toujours essayer de se dépasser, tu vois, ouais. ça peut avoir un impact sur le mental, justement, et puis la confiance en soi.
Ah ouais, parce que justement, quand on se sent capable justement de passer les étapes et qu'on voit qu'on y arrive, je sais qu'il y a rien de plus satisfaisant que ça, parce que ça m'ouvre la prochaine porte qui est un cran au-dessus. Ok, j'ai fait ça, mais est-ce que je suis capable de maintenant de faire ça? Et c'est comme je disais tout à l'heure, moi, les challenges, je les prends au fur et à mesure, mais une fois qu'il est passé, ce challenge, que je l'ai réussi, ok, what's next? Et ainsi de suite. Donc ça, pour la motivation, pour aller chercher loin, voire même très loin, c'est nécessaire, à mon avis.
Trop bien. Alors, tu connais pas bien ce podcast, mais à la fin, j'ai toujours un crible avec des questions que je pose à chaque fois qui sont un peu philosophiques, tu vas voir. La première, c'est est-ce que tu as vécu dans ta vie un grand échec ou un moment de doute particulièrement fort dont tu pourrais me parler? Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement.
Ben, comme j'en ai parlé tout à l'heure, franchement, grand moment de doute, moi, ça a été l'année qui a suivi mon déménagement à Los Angeles. Où je me suis posé la question, est-ce que j'ai bien
après,
fait?
Après le déménagement.
L'année après le déménagement.
Tellement ça a été galère.
Est-ce que j'ai fait la bonne décision? Parce que toutes mes décisions, tous mes grands challenges avant, j'étais seul. Enfin, l'Australie, tous les diplômes, quand il a fallu aller me challenger, aller chercher le diplôme d'après, etc. C'était des trucs où j'avais pas emmené la famille avec moi en galère. Là, j'étais loin de tout, avec les enfants, avec madame, et tout dépendait de moi. Sachant que ma femme, quand on est arrivé avec le visa que j'avais, elle ne pouvait pas travailler. Donc, quand on dit vraiment là que ça dépendait de moi, c'était que moi. Et quand l'année, elle avance et que je vois que, les comptes sont pas bons, mon Dieu, je commence à paniquer.
Parce que la vie, elle aille, c'est parce pas donné que, en plus.
Exactement, c'est un rouleau compresseur. Il y a personne qui va te dire, hey, tiens, il y a une petite aide là, le RSA qui te sauve la vie. Et même si j'avais le RSA, il m'aurait pas spécialement arrangé là-bas.
Et alors, qu'est-ce que ça t'a appris, tu crois, cette période?
Ça m'a appris à gérer quand t'es dans la zone rouge. C'est-à-dire que je vais pas dire maintenant presque tout pourrait m'arriver, mais maintenant ma zone rouge, il faut me pousser vraiment loin pour que je l'atteigne. Et là où certains commencent à paniquer, les gars, cool. Moi j'ai vu la zone rouge, je l'ai touché. Là on est large.
Là on est encore dans le bleu là.
On est encore bien. Et je pense que ça parfois ça peut être un avantage, justement de pouvoir garder la tête froide quand tout autour. Pour certains, c'est le bordel ou c'est la guerre, quoi. Moi,
c'est clair.
Ouais. Parce que ça a été, pour avoir une idée, si le Covid serait arrivé à cette période-là, je rentrais. J'avais pas les reins assez solides, j'avais pas encore la clientèle, j'étais financièrement pas encore assis pour pouvoir encaisser quelque chose comme le Covid l'année un an voire un an et demi après mon arrivée à Los Angeles.
S'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu referais différemment? Ça peut être pro ou perso, hein, bien sûr.
Ouais. Qu'est-ce que je referais? Quand je vois comment tout est en train de se passer, je me dis, est-ce que vraiment il y a quelque chose à refaire? Même les choses qui ne sont pas spécialement bien passées,
t'as le droit.
Au final, c'était peut-être comme ça que ça devait se passer. Maintenant, là, aujourd'hui, ce que je dirais, c'est me bouger un peu plus les fesses à l'école.
Encore que, tu vois, si ça se trouve, tu aurais peut-être fini prof, quoi.
Ou alors j'aurais peut-être pris une autre filière ou je sais pas. Donc vraiment là tout de suite maintenant à refaire j'ai rien là qui me vient en tête.
OK. Alors là celle-là elle est un peu spéciale, tu vas voir, mais je l'aime bien. Qu'est-ce que tu trouves beau?
La nature. Là depuis que je suis à Los Angeles, j'en profite au maximum. Rien qu'à aller me poser à Malibu, regarder la plage, les dauphins, les je peux y aller tous les jours je suis surpris. Tous les jours je suis waouh. Alors que j'ai même du mal à réaliser que j'habite là.
Ouais, tu considères que c'est chez toi maintenant? Voiture.
Ouais, là, ouais.
Quand même.
Quand je vois mes enfants, comment ils y sont, etc. Ouais, c'est quand même... Là, par exemple, ça fait 3 mois que je suis à Paris. Ça y est, je pense que j'ai
c'est
fait...
Bon.
Ouais.
Bah, d'ailleurs, tu pars bientôt, je crois.
Ouais, une semaine, là. Je suis de l'autre côté, là, dans une semaine.
Cool.
Mais ouais, la nature, vraiment. Et LA, c'est super pour ça, parce que 1 heure de voiture dans les terres, dans le nord, et en 1 heure et demie, je suis au ski. 1 heure de l'autre côté, je peux être à la mer ou dans le désert, et de pouvoir avoir ça, accès à tout ça si rapidement. En tout cas, moi, là, j'en profite à fond quand je suis là-bas.
Trop bien. Ouais. Alors, à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui t'irritent, qui t'agacent, qui t'énervent, que t'observes, que t'aimes pas?
C'est les gens qui laissent tomber.
Les gens qui laissent tomber,
ouais,
qui abandonnent.
Qui abandonnent. Quand l'abandon, en fait, il vient de la personne. Quand tu lâches tout, ça y est, j'arrive pas à, j'ai envie de leur donner ce truc là de, mais en fait, on me dit que c'est pas tout le monde qui l'a, cette niaque, et c'est ça, des fois, que ça, j'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à le comprendre. Et j'essaye, et c'est pour ça que j'essaye d'aller le partager pour que le maximum de personnes l'aient. Là, tout ce que j'ai fait là depuis que je suis là à la Starac, entre les jours où je ne tourne pas pour la Starac, je suis quelque part. Demain, je vais à Lille parler à un centre de formation dans la matinée qui sont en terminale, première terminale. L'après-midi, je suis avec des collèges. Hier, j'étais dans une boîte, j'ai fait mon premier talk en anglais avec devant des professionnels.
Combien?
Avant-hier, j'étais à Montreuil. La semaine dernière, Saint-Denis, Aubervilliers, Gennevilliers, Courneuve. Enfin, j'y vais. Je me dis, là, c'est presque ma mission. Parce que, justement, je veux pas que quelqu'un lâche. Je veux pas que vous lâchiez. Par rapport à mon histoire, s'il y a un petit truc qui peut vous inspirer ou qui peut allumer cette étincelle et faire en sorte que dans 5, 10, 15 ans, il y en ait un qui vienne me voir et me dise « J'ai lu ton livre ou tu nous as parlé et grâce à ça, j'ai fait ceci ou cela », ça y est, moi...
J'étais pas loin, mais j'ai écouté ton discours et j'ai pas lâché.
Ça me suffit, j'ai gagné. Quand je vois d'où moi je pars et tout ce qui a été fait, s'il y en a un qui me dit ça, pour moi, c'est...
Bon, si vous nous écoutez, messieurs, dames, et c'est le cas, forcément.
Dites-le-moi, s'il vous plaît.
Envoyez un petit message à Joël, hein, franchement. Ça lui fera sa journée.
Ouais, c'est clair. Plus que ma journée, là. Ah ouais, non, là, vous ferez plus que ma journée.
Trop bien. Est-ce que t'as une citation ou une maxime, tu vois, ou un proverbe, enfin, une phrase que t'aimes bien, que tu te répètes peut-être, qui est un peu ta phrase préférée,
que
quoi.
Que j'aime bien, moi, c'est « Don't try to do your best, just be the best ».
Pas
mal. N'essayez pas de faire de votre mieux, soyez le meilleur. Et parfois, j'ai conscience que si je suis sur un sprint avec Usain Bolt, que je vais pas... mais dans ta tête, quand t'abordes ce que tu vas faire, pars dans ta tête comme étant le meilleur. Ne serait-ce que pour te conditionner, aller chercher les sensations que le meilleur peut ressentir. Pour toi, en tout cas, faire le meilleur ce jour-là.
Est-ce que t'as une croyance qui est controversée? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que tu constates que globalement, les gens autour de toi... partage pas l'un de tes points de vue, tu vois, sur la société, la vie, l'amour, je sais pas, peu importe.
Bah là, à chaque fois quand je reviens en France, c'est bizarre, mais je dirais la valeur travail. Parce que moi, j'ai l'impression que je suis à 100 à l'heure et j'ai l'impression même que c'est moi le fou. Parce que
oui,
je m'arrête pas.
Les gens
ne
comprennent pas pourquoi tu bosses autant, quoi.
Et quand je leur dis, mais les gars, mais c'est ça, pour faire des choses, il faut à un moment donné se bouger, etc. Et après, bah, après, c'est très français, hein. Nous, on est dans nos 35 heures, etc. Et des fois, eh ben, justement, il y a ce petit clash où de, ouais, mais toi, ça y est, t'es passé, t'es un Américain capitaliste, même sans rentrer dans tout ça, hein. Juste, non. Moi, c'est des valeurs que j'ai fait évoluer avec le sport, que j'ai acquises via le sport. Donc tout ce qui est discipline, motivation, être sérieux dans ton travail, aller chercher des résultats que tu retrouves grâce au travail que t'as fourni, à l'entraînement, etc. Tout ça, ce que j'ai fait, moi, c'est que je l'ai appliqué au sport. Et quand je l'ai appliqué à ma vie,
ouais,
pardon,
travail,
à ma
ouais.
vie, à ma vie personnelle et professionnelle. Et dans le sport, en fait, si tu veux être le meilleur, tu comptes pas tes heures. Et pour moi, ben c'est logique que à un moment donné, dans le travail, dans ta vie personnelle ou professionnelle, si tu veux être le meilleur, tu comptes pas tes heures.
Mais en vrai, est-ce que tu t'éclates?
Mais par contre, Et ça aussi, c'est peut-être un des privilèges que j'ai, c'est de pouvoir évoluer dans un domaine que j'ai choisi et que j'arrive à mêler passion et travail. Ce qui fait que tous les jours aujourd'hui, quand je me lève, c'est avec le sourire, la pêche et...
Tu bosses comme un fou, mais tu changerais pour rien au monde, quoi.
En tout cas, là, tout de suite, maintenant, non.
Ça se sent.
Ouais, ouais.
Encore deux questions pour toi. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel t'as changé d'avis, dont tu te rappelles ?
Un sujet sur lequel j'ai changé d'avis. Bah, justement, cette vision que j'avais des Américains.
Ah ouais ?
Ou de l'Amérique, plutôt.
Qui était comment ?
Qui était très restrictive, ils sont pas super... Bon, après, c'est vrai aussi, hein, maintenant que j'y suis.
T'as pas vraiment changé d'avis.
Ils sont très centrés sur eux-mêmes.
Ouais.
C'est que travail, ils pensent à rien d'autre et
ils pensent vraiment qu'au travail.
C'est vrai, mais après nous, quand on le voit avec notre regard français, c'est presque quelque chose de négatif.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, mais moi maintenant que j'y suis, je comprends leur mentalité. J'adhère pas à tout, mais je comprends que pour être là où ils sont, certains, ou que il faut passer par là. Il faut aller en donner du travail. Mais nous, je sais que parfois, et ça, je me fais des ennemis quand je dis ça, on n'est pas prêt à le fournir, ce travail. On n'est pas prêt à le fournir.
Bah, pourquoi tu te fais des ennemis? C'est vrai, non? Enfin...
Parce que en France, on veut les résultats que ces personnes ont, mais en fournissant le travail...
Bah, ils sont pas aux 35 heures, quand même, les Américains.
C'est clair qu'ils sont pas aux 35 heures, ouais. Mais après ça... Les 35 heures, quand je reviens en France et que j'en parle, on me fait comprendre que en France, on en est fier. Parce qu'on s'est battu. Et je le comprends totalement. Je le comprends. Ok, d'accord. Mais dans ce cas-là aussi, il faut pas aller espérer les résultats que eux ont. Parce que eux, certes, ils se sont pas battus pour leurs 35 heures, mais quand ils ont les résultats qu'ils ont, pour certains, ils sont allés les chercher, quoi.
Ouais, c'est une question de choix.
Ouais.
Bon, alors j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un livre, un film, une musique qui t'a particulièrement inspiré, changé, enfin tu vois, qui est un peu ton truc à toi, dont tu pourrais me parler, et pourquoi? Pourquoi est-ce que ça t'a autant impacté ou marqué?
Alors en film. Après je vais revenir loin. Le film que j'ai regarder, re-regarder, étudier en profondeur les personnages, c'était Scarface.
Ah oui, tiens.
Brian De Palma avec Al Pacino, parce que c'était le film que les grands de mon quartier, avaient regardé à l'époque. C'est un film de début 80, 82. Donc moi, j'étais même pas encore dans le game quand ce film-là est arrivé. Mais après, en grandissant, forcément, j'avais des amis qui faisaient des bêtises et pour qui c'était le film culte qu'il fallait regarder. Je l'ai regardé et en fait, j'ai retrouvé quelque chose dans ce film-là qui reprenait les codes de là où j'étais et il montrait quelqu'un qui partait de rien et qui arrivait à tout. Certes, qui finissait mal, mais... qui arrivait à monter au niveau de l'échelle sociale, qui était vu différemment par rapport à sa montée. Et pendant une partie de ma jeunesse, j'étais focus sur ce film en me disant tout ce que je fais, c'est à la Tony. J'y vais chercher les choses à la Tony. Mais à un moment donné, surtout quand t'as une famille, tu commences à te dire, Tony, il a fait ça, mais bon, Tony finit le nez dans la coke et des balles dans le dos. Donc, est-ce que Tony, c'était vraiment le
meilleur modèle?
Le meilleur modèle, ouais. Non, ça l'était
partie,
pas.
En partie, quoi.
Ça l'était pas, mais moi, c'était plutôt dans l'ascension. Maintenant, les moyens que lui utilisait pour aller chercher cette ascension, certes, pas les bons.
Non, mais ça t'a fait voir que c'était possible.
Mais par contre, ce truc de quelqu'un qui partait de rien et qui arrivait à tout, l'ascension, pour moi, c'était un des premiers films de ce genre-là où je voyais quelqu'un qui arrivait dans un pays qui était pas le sien et qui arrivait à se faire un nom dans un monde, certes, qui était à l'époque celui des narcotiques, mais en tout cas, il arrivait à se faire un nom et arrivait à quelque chose. Donc, ouais, peut-être pas la bonne référence.
Ah non, mais si, j'adore. Après, c'est un film incroyable, par ailleurs.
C'est un film incroyable, ouais. Et après, aussi, moi, ce qui m'intéressait quand j'ai après regardé le film un peu plus en profondeur et que j'ai analysé un peu tout, c'était les codes au niveau des personnages que je retrouvais en fait dans mon quartier ou à la cité en général. Les codes par rapport à la famille, par rapport au respect des gens dans certains groupes, la place de sa sœur qui sort avec son meilleur ami. Et ça, c'était des trucs pareils qui, au quartier, ne se font pas. Et donc j'avais fait comme ça une pseudo-analyse où je m'étais dit je vais essayer d'aller aller un peu plus loin que juste le film et créer une seconde lecture à moi-même. Et c'était peut-être pour me rassurer, essayer de vivre avec ce film le plus longtemps possible. Mais à un moment donné, je l'avoue, il y a quelque chose qui se casse quand on comprend tout et qu'on regarde la chose avec un peu de recul. C'est pas forcément j'ai fait mon deuil de Scarface et
t'as une période de ta vie, il t'a aidé quoi, il t'a porté.
Ouais, c'est clair. Ouais.
Trop bien.
Jusqu'à l'Australie, on va dire.
Joël, écoute, je te remercie mille fois pour ton temps. Est-ce qu'il y a un dernier, alors si ce n'est message à faire passer, en tout cas moyen de te contacter, de te suivre, de t'envoyer des messages, de te remercier pour tout ce que tu partages, justement.
Moi, mon principal réseau social, c'est Instagram, sur lequel j'essaye d'être assez réactif et sur lequel je réponds pas mal. Donc, Instagram principalement, LinkedIn, Facebook ou X. J'y suis aussi.
Un peu.
J'y suis juste un peu moins. Mais je suis pas un grand fan des réseaux sociaux en général, hein. Mais celui sur lequel je suis le plus actif, on va dire que c'est Instagram pour l'instant.
Super. Je mettrai le lien. Super. Et messieurs, dames, n'hésitez pas à envoyer un petit mot à Jo.
N'hésitez pas.
Je pense qu'il sera ravi.
Faites-moi les retours.
Merci beaucoup pour ton temps.
Merci, Pauline.
À bientôt.
Bonne fin de soirée.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur polinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.